Chapitre 7. Un disciple d'Épicure qui était chargé de réformer des villes libres. Le réformateur, c'était un disciple d'Épicure, était venu trouver Épictète. Celui-ci lui dit : C'est notre rôle à nous, ignorants, de vous interroger, vous autres philosophes, comme les étrangers qui arrivent dans une ville interrogent les habitants qui la connaissent. Dites-nous ce qu'il y a de meilleur dans le monde, pour que, lorsque nous le saurons, nous allions le chercher et le contempler, comme font les étrangers dans les villes. Que trois sortes de choses aient été données à l'homme, une âme, un corps et les objets extérieurs, c'est ce que ne conteste presque personne. Mais il vous reste à nous apprendre, par votre réponse, quelle est la meilleure des trois. Quelle est celle que nous indiquerons comme telle aux hommes ? La chair ? Mais est-ce donc par amour de sa chair et pour lui faire plaisir qu'au cœur de l'hiver, Maximus alla par la mer jusqu'à Cassiope, en accompagnant son fils ? Non, dit notre homme, et à Dieu ne plaise. Ne convient-il donc pas, dit Épictète, de donner tous ses soins à ce qu'il y a de meilleur ? C'est ce qui convient le plus au monde. Qu'avons-nous donc de meilleur que le corps ? L'âme, dit l'autre. Mais qu'est-ce qui vaut le mieux, le bien de la partie la meilleure ou celui de la partie la moins bonne ? Celui de la partie la meilleure. Tout ce qui est un bien pour l'âme dépend-il de notre libre arbitre ou n'en dépend-il pas ? Il en dépend. Eh bien, le plaisir de l'âme dépend-il donc de notre libre arbitre ? Oui. Mais de quoi naît ce plaisir ? Est-ce qu'il naît de lui-même ? La supposition est absurde, car il faut qu'il y ait antérieurement quelque bien réel et supérieur dont la possession fasse naître le plaisir dans notre âme. Notre homme l'avouait. D'où naît donc ce plaisir dont nous jouissons dans notre âme ? Car s'il naît des choses de l'âme, voilà le vrai bien trouvé. Il ne se peut en effet que le bien soit une chose, et que ce dont nous avons raison de jouir en soit une autre. Quand le principe n'est pas bon, la conséquence n'est pas bonne, car pour que la conséquence soit bonne, il faut que le principe soit bon. Mais vous vous garderez de parler ainsi, si vous êtes dans votre bon sens, car ces paroles sont en contradiction avec Épicure et avec vos autres dogmes. Il reste donc que ce soit du corps que naissent les plaisirs ressentis par l'âme, que le corps par suite occupe le premier rang et que le bien véritable soit en lui. Aussi Maximus a-t-il agi sottement s'il a fait ce voyage par mer pour autre chose que pour son corps, c'est-à-dire pour ce qu'il y a de meilleur. Il fait sottement aussi de s'abstenir du bien d'autrui, le juge qui peut s'en emparer. Veillons seulement, si tu le veux bien, à ce qu'il le fasse en secret, en sûreté, sans que personne le sache. Car ce qu'Épicure en personne appelle un mal, ce n'est pas de voler, mais d'être découvert. Et c'est parce qu'on ne peut jamais avoir une entière assurance de rester inconnu qu'il vous dit « Ne volez pas ». Mais je vous dis, moi, que si nous le faisons adroitement, et en nous cachant bien, nous ne serons pas découverts. Nous avons d'ailleurs à Rome des amis et des amis qui sont puissants. Puis les Grecs sont faibles, et pas un d'eux n'osera venir à Rome pour cela. Pourquoi donc t'abstenir de ce qui est ton bien ? C'est une sottise et une absurdité. Et quand même tu me dirais que tu t'en abstiens, je ne te croirais pas. Car de même qu'il est impossible d'adhérer à l'erreur ou de ne pas adhérer à la vérité, quand elles sont évidentes, de même il est impossible de s'abstenir d'un bien évident. Or l'argent est un bien, et la plus abondante source de plaisir. Pourquoi ne t'en procurerais-tu pas ? Pourquoi donc aussi ne corromprions-nous pas la femme de notre voisin si nous pouvions le faire en secret ? Et si son mari s'amusait à réclamer, pourquoi ne lui romprions-nous pas le cou par-dessus le marché ? C'est ce que tu feras si tu veux être philosophe comme il faut l'être, si tu veux l'être complètement, si tu veux te conformer à tes principes. Si tu ne le fais pas, tu ne différeras en rien de nous autres, qu'on nomme stoïciens, car nous aussi nous agissons autrement que nous ne parlons. Seulement chez nous, ce sont les paroles qui sont honorables et les actions qui sont honteuses. Chez toi, par une dépravation et une perversion toute contraire, ce seront les principes qui seront honteux et les actions qui seront honorables. Au nom du ciel, te représentes-tu une ville d'épicuriens ? Moi, je ne me marie pas, dit l'un. Ni moi non plus, dit l'autre, car il ne faut pas se marier. Mais il ne faut pas non plus avoir d'enfants ni s'occuper du gouvernement. Qu'arrivera-t-il donc ? D'où viendront les citoyens ? Qu'est-ce qui les instruira ? Qui sera le surveillant de la jeunesse ? Qui sera ton maître de gymnastique? Qui se chargera de son éducation? Lui donnera-t-on l'éducation des lacédémoniens ou celle des Athéniens? Prends-moi un jeune homme et élève-le suivant tes principes. Mauvais sont tes principes, ils sont le bouleversement des États, le poison des familles, le déshonneur des femmes. Homme, renonce-y. Tu vis dans une ville capitale, il te faut être magistrat, rendre équitablement la justice, t'abstenir du bien d'autrui, ne trouver belle aucune autre femme que la tienne, ne trouver beau aucun jeune garçon, aucun objet en or ou en argent. Cherche des principes d'accord avec cela, et en parlant d'eux, tu te passeras gaiement de tant d'objets si propres à nous attirer et à triompher de nous. Que n'arriverait-il pas, au contraire, si aux séductions des objets, nous ajoutions avec toi l'invention d'une philosophie qui nous pousse vers eux et accroît leur puissance? Dans un vase d'argent ciselé, qu'est-ce qui a le plus de prix, la matière ou l'art? Évidemment, c'est l'art. Eh bien, la chair est la matière de la main, et ce qu'il y a de principal, c'est ce que fait la main. Par suite donc, il y a pour nous, vis-à-vis des objets, trois sortes de convenances, les unes relatives à leur substance, les autres aux qualités de cette substance, puis celles enfin qui sont les principales. De même, dans l'homme aussi, ce n'est pas à la matière, c'est-à-dire à la chair, qu'il faut attacher du prix, mais à ce qu'il y a de principal. Et qu'est-ce qu'il y a de principal? Gouverner, se marier, avoir des enfants, honorer Dieu, prendre soin de ses parents, bref, désirer ou éviter, se porter vers les choses ou les repousser, comme il convient de le faire dans chaque cas, conformément à notre nature. Et quelle est notre nature? D'être libre, noble et honnête. Est-il en effet un autre être animé qui rougisse? En est-il un autre qui ait l'idée de la honte? Quant au plaisir, il faut le subordonner à tout cela, comme un serviteur et comme un aide, qui doit appeler en nous la bonne volonté et faire que nous nous renfermions dans les actes conformes à la nature. « Mais je suis riche, dis-tu, et je n'ai besoin de rien. Pourquoi donc te donnes-tu encore des airs de philosophe? Tu as assez de tes vases d'or et d'argent. Qu'as-tu besoin de principes? Mais je suis aussi le juge des Grecs. Sais-tu juger? Qui t'a fait le savoir? César a signé mon brevet. Et qu'il t'en signe un pour juger la musique? Qui gagneras-tu? Après tout, comment es-tu devenu juge? De qui as-tu baisé la main? De Symphorus ou de Numénius? Au pied du lit de qui t'es-tu couché? À qui as-tu envoyé des cadeaux? Et ne comprends-tu pas qu'être juge ne vaut que ce que vaut Numénius? Mais je puis jeter en prison qui je veux, comme tu peux faire bâtonner un âne. Ce n'est pas comme cela qu'on commande à des hommes. Commande-nous comme à des êtres raisonnables. Montre-nous ce qui doit nous nuire et nous nous en détournerons. Fais que nous t'imitions comme Socrate faisait qu'on l'imitât. C'était vraiment lui qui commandait comme à des hommes, lui qui amenait les gens à lui soumettre leurs désirs, leurs aversions, leurs intentions, pour ou contre les choses. « Fais ceci, ne fais pas cela, dis-tu, sinon je te jetterai en prison. » Ce n'est pas encore là commander à des êtres raisonnables, mais voici qu'il l'est. Fais ceci comme Jupiter l'a ordonné, si tu ne le fais pas, tu auras une punition, un châtiment. Quel châtiment? Nul autre que de ne pas avoir fait ce que tu devais. Tu y auras perdu ta droiture, ton honnêteté, ta modération. Ne cherche pas de châtiment plus grand que cela. »